radio de la paix. Il est 18h.
La fréquence de la paix. Yo, mais c'est. Oh, la dame, monsieur. Yaga, yo. Bless up the fire. Could never stop at the wire. Yo, mais c'est.
Journal de 18h. Carlos Kouandé.
18h en ce jeudi 4 mai 2023, c'est l'heure d'écouter les informations sur Radio de la Paix. Nous émettons sur les 96.0 FM à Abidjan et environ. Voici nos titres. Élection en Côte d'Ivoire, un code de bonne conduite a été signé ce jeudi à l'initiative de la concertation impartie pour des élections démocratiques en partenariat avec la CEI et le NDI. Fait majeur, les principaux partis politiques du pays étaient absents. La semaine de la sécurité routière pour le mois de mai a démarré hier à San Pedro. Kofi Benson, correspondant Radio de la Paix dans le Bassa-Sandra, nous fera le point. Et puis hors de nos frontières, on dénombre au moins 17 morts dans un accident ce jeudi entre un bus et un camion dans la région d'Assiout, dans le centre de l'Égypte. Voici pour l'écran de ligne. À vous tous, bonsoir. Signature officielle du dernier code de bonne conduite des partis et groupements politiques des candidats et candidates aux élections sous l'égide de la CIED, concertation impartie pour des élections démocratiques en partenariat avec la CEI, Commission électorale indépendante, et le NDI, National Democratic Institute. Une signature qui n'a cependant pas vu la participation des principaux partis politiques, n'est-ce pas, Mata Touré?
Après l'actualisation du code de bonne conduite par les partis politiques, la société civile, c'était pourtant à la phase finale de ce processus en vue d'engager des leaders politiques à promouvoir des élections locales et régionales apaisées. Elles ont en outre bénéficié d'un projet d'appui au processus démocratique, comme l'a rappelé Blé-Pierre Norlander, président du CIED.
Ce projet vise à inculquer aux partis et groupements politiques, aux candidats et candidates, l'adoption de comportements de fair play électoral et de responsabilité en s'appuyant sur le code de bonne conduite.
De son côté, le président de la CEI a souligné pour tous l'importance de ces cérémonies.
Je voudrais rappeler aux partis politiques, aux candidats, que cette convention est la vôtre et si on la respecte, la Côte d'Ivoire se portera mieux. Nous, qui sommes en charge de l'organisation des élections, ferons de sorte qu'il y ait une coïncidence parfaite entre ce que le peuple a dit et le résultat qui sera proclamé.
A noter que de nombreux partis politiques, et non des moindres, ont boudé cette signature du code de bonne conduite, à quelques exceptions, qui ont encouragé d'ailleurs les absents à faire de même. Pascal Afinguessan, du FPI.
Je déplore cela et j'espère que chaque fois qu'il y a un événement de cette nature, qui est un événement très important, tous les partis politiques, tous les acteurs significatifs soient présents pour manifester l'engagement de toute la nation ivoirienne autour des valeurs de paix, de stabilité, de confiance.
Étaient également présents les partenaires techniques et financiers avec à leur tête l'ambassadrice des États-Unis.
Élections municipales et régionales de septembre 2023. En termes de force politique à ce sujet, le RHDP part avec une éventuelle avance sur les autres partis qu'il tire de sa gestion actuelle du pouvoir. C'est l'analyse du professeur de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Jean-Marie Kouakou. Il a été joint aujourd'hui par Francis Cassie.
En matière d'élection, il y a deux grands principes qui prévalent dans l'analyse. Le principe de continuité, le principe de l'accident. Vous devez prendre en compte les deux principes. Si on part du principe de continuité par rapport à l'équilibre des forces actuelles, il est évident que le RHDP a quand même une longueur d'avance sur les deux autres partis qui ont pris du retard quand même depuis quelques années. Est-ce parce qu'ils sont dans l'opposition? Je ne sais. Peut-être que la posture du RHDP en tant que parti au pouvoir lui donne certains avantages, comme cet avantage a été favorable au PDCI pendant les années de la présence du PDCI au pouvoir et favorable au FPI à l'époque pendant sa période d'exercice du pouvoir.
Donc par rapport au municipal et régional qui doivent se tenir, quel serait l'accident pour le RHDP, l'accident pour le PPACI, l'accident pour le PDCI et pour tout autre parti?
L'accident est toujours imprévisible, donc on ne peut pas dire que ça sera X ou Y. Mais on peut supposer que le RHDP qui est au pouvoir actuellement peut être soumis à une décision politique impopulaire. Et du coup, ça lui enlève tout son crédit.
Alors, les partis viennent de publier des listes de candidats. On remarque qu'il y a des zones dans lesquelles il y a des partis qui n'ont pas positionné de candidats là-bas. Est-ce que ça ramène à l'accident dont vous parlez?
Les deux, à la fois continuité et accident aussi. La cartographie électorale en Côte d'Ivoire, elle est telle que dans certaines parties du territoire ivoirien, certains partis politiques ne sont pas acceptés, ce qui est antidémocratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a du recul de certains partis. Dans certaines régions, ils n'y vont pas du tout, ils ne présentent pas de candidats.
À l'instant, le professeur de lettres modernes Jean-Marie Kouakou de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Élection régionale et municipale du 2 septembre 2023 toujours. Le parti doyen de Côte d'Ivoire entendait le PDCI RDA qui place ses élections locales sous le signe de la reconquête du Grand Nord. A rendu public également sa liste de candidats et c'était le mardi 2 mai dernier. A noter que cette formation politique présente des candidats dans 27 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit entre autres le député Soumaïla Bredoumikoua. Voici porte-parole du PDCI.
Nous avons retenu pour les régionales 27 candidatures dans 27 régions et pour les municipales 163 sur les 201 communes, soit un taux de couverture pour les municipales de 81,9%. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons commencé notre reconquête du Nord, le Nord des régions pour lesquelles le PDCI s'est senti un peu absent depuis un certain moment. Donc sur les 9 régions du Grand Nord, le PDCI présente 7 candidatures dans cette région, soit 77%. Et sur les 69 communes de la grande région du Nord, le PDCI présente 35 candidatures. Et cette fois-ci, nous pensons augmenter notre présence dans le Nord et notre présence au niveau national.
Honorable Kouassi Bredoumi, qu'en est-il du projet d'alliance avec le parti de Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, avec la publication de cette liste de vos candidats potentiels?
Oui, je peux vous assurer qu'il y a une équipe bipartite qui est composée des représentants du PPACI et du PDCI-RDA après la sortie des différentes listes pour analyser chaque endroit, que ce soit au niveau des régionales qu'au niveau des communales, pour que nous puissions avoir une alliance entre les deux partis politiques pour aller aux élections. Et les négociations ont déjà commencé.
Soumaïla Bredoumi Kouassi, porte-parole du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par ailleurs, député de Tankessé, Kokoumian et Tien Kouakro, joint par Soro Adams. À Korogo, 25 jeunes, dont 15 filles issues de partis politiques et autres associations confessionnelles estudiantines et d'ONG de la région du Boro, ont bénéficié d'un renforcement de capacités autour de la thématique « Quelle contribution de la jeunesse ivoirienne à la construction de la nation ?» À travers cette formation, les jeunes sont amenés à intégrer et à surtout les notions indispensables en termes de défis à relever pour l'édification d'une nation ivoirienne solide. Les Échos avec Marcel Bonny.
Le renforcement des capacités sur la contribution de ces jeunes leaders à la construction de la nation s'appuie sur des modules que précise le docteur Flamboké César, directeur du centre de recherche politique d'Abidjan.
Ethnie, religion, région et nation, comment renforcer la nation ivoirienne dans le contexte socio-politique actuel? Également, mettre l'accent sur le fait que les jeunes ou alors les citoyens doivent être au cœur des institutions de la République. Enfin, il s'agissait de voir comment agir en faveur de la construction de la nation ivoirienne.
Des notions essentielles avec des attentes exprimées.
Nous avons espoir que les différents messages que nous sommes venus passer ont été effectivement entendus et que ces participants-là, en tant que leaders d'opinion, pourront répercuter dans leurs différents environnements, montrer qu'on est devenu mature et que les questions électorales ne peuvent pas être l'occasion d'instaurer dans une région de la violence.
Message reçu par ces jeunes leaders.
Jiremawa, jeune leader politique féminine, nous retenons qu'il est important pour nous en tant que jeunesse, en tant que personne, en tant que citoyen, de nous engager pour la construction de notre nation. Et la construction de la nation ivoirienne ne se fera pas sans l'union de ses fils et de ses filles.
Nyotin Fatmata Thio, présidente nationale de l'Alliance féminine pour le changement, en abrégé AFC. Nous avons compris que chaque citoyen doit pouvoir respecter ses droits et devoirs afin de faciliter la construction de cette nation que nous voulons toutes.
Notons que ce projet, exécuté par le Centre de recherche politique d'Abidjan, cible les villes de Korogo, Abengourou, Abidjan, Gagnoua, Mans, Séguéla et Yamoussoukro. Marcel Bonny, Korogo Radio de la paix.
Parlons économie à présent. Un déjeuner d'affaires sur le financement des entreprises ivoiriennes a été organisé hier mercredi 3 mai à Abidjan Plateau. Cette rencontre qui a porté sur le thème FSA, APBFCI et CGC, un partenariat naturel pour la couverture des besoins de financement des entreprises ivoiriennes, est une initiative du Fonds de solidarité africain en partenariat avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus dans ce compte rendu de Jean-Claude Mabéa.
La présentation du Fonds de solidarité africain, FSA, a été faite par Ali Guindo, son chef de mission résidente en Côte d'Ivoire.
Le Fonds de solidarité africain, c'est une institution qui est là depuis environ 45 ans. La Côte d'Ivoire fait partie des États fondateurs et nous avons aujourd'hui 16 États autour du capital et ce sont ces États qui sont les actionnaires du FSA. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont soumises à des pesanteurs pour la satisfaction de leurs besoins de financement et nous, nous sommes là pour essayer de jouer le rôle de facilitateur pour le financement de ces entreprises. D'ici le 31 décembre, l'objectif est de faire au minimum 100 milliards d'interventions en faveur des entreprises nationales.
Le patronat ivoirien dit accorder un intérêt particulier à ce partenariat, à en croire Sanga Kone, le représentant du président de la CGC.
Que nous et les établissements de crédit puissions nous accorder sur l'utilisation efficiente des leviers pour la couverture idoine de nos besoins de financement. Nous aspirons tous à faire partie des champions nationaux.
Pour le président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Jérôme Ehui, le FSA est un partenaire stratégique du secteur privé.
Présent à nos côtés depuis plus de 4 décennies, le FSA met à notre disposition une panoplie d'instruments opérationnels qui sont un appoint évident pour la menée de nos activités.
En attendant la finalisation de son processus d'accréditation en Côte d'Ivoire, il faut signaler que le FSA a été créé le 21 décembre 1960 à Paris en France et son siège est à Niamey au Niger.
Jean-Claude Mabéa pour ce compte rendu. La 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a démarré le mercredi 3 mai, donc hier à San Pedro. Ce projet vise à sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route. Pour cette 4e édition, l'accent a été mis sur la sensibilisation et la répression des conducteurs d'engins de 2 à 3 roues. Des détails avec Kofi Benson, correspondant Radio de la Paix dans le Bas-Sassandra.
Vous appelez comment, monsieur?
Je m'appelle Traoré.
Monsieur Traoré, oui. Votre cas, c'est où?
Bon, c'est là.
Le cas, c'est dans le tricycle et vous ne le portez pas. Vous ne trouvez pas que c'est pas normal de votre part?
C'est pas normal.
La main vous fait 2000 francs pour le non-port de café. Vous payez la contravention, je vous donne le reçu.
Ces échanges sont d'un agent de police et d'un usager de la route à bord d'un tricycle sans casque. Après avoir payé sur place la contravention, l'usager se dit désormais prêt à respecter les règles.
Non, demain, ils vont jamais m'attraper comment? C'est pour des casques maintenant, ce n'est plus cadeau. C'est la contravention 2000 francs.
Pour le directeur régional des transports à San Pedro, à Cambi, à Biboulaye, la répression après la sensibilisation est un moyen efficace pour la sécurité routière.
Les premiers mois, nous avons voulu mettre l'accent sur la sensibilisation. Un peu de répression, mais beaucoup de sensibilisation. Ça fait la 4e édition. C'est vraiment déplorable que nous voyons encore des usagers qui roulent souvent les motos sans casque. Tout à l'heure, j'avais balisé un monsieur qui venait du trésor payer les 2000 francs. Tu viens de payer l'amende et tu continues de ne pas respecter les consignes. Donc j'ai insisté encore qu'on lui donne notre amende. Quand tu vas payer chaque fois comme ça, nous pensons qu'il va changer.
Le constat sur le terrain impose un renforcement des opérations selon le commissaire principal Kwame Henri Michel, préfet de police adjoint de San Pedro.
Nous ne baissons pas les bras et je voudrais exhorter l'ensemble des acteurs à œuvrer encore davantage dans la mise en œuvre de cette opération.
Selon l'ONPC, l'Office national de la protection civile, il a été enregistré 97 interventions en janvier avec 3 décès, 61 interventions en février avec 2 décès, 80 en mars et 101 intervention en avril avec un décès. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Merci à vous, Kofi Benson. Un mot de santé dans ce 18h. Au moment où l'OMS célèbre ses 75 ans d'existence, l'organisation accroît sa contribution au renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire et ce, dans le contexte à Covid-19, au cours d'une cérémonie, du matériel informatique et équipements médicaux de plus de 600 millions de francs CFA, dont la première tranche s'élève à plus de 300 millions de nos francs, ont été remis au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La remise de ces matériels a eu lieu au siège de l'OMS dans la commune de Cocody. On fait le point. avec Paul Bénédicte Boulou.
C'est l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'OMS qui ont été mises en exergue une fois de plus. Le représentant résident de l'OMS, Dr Jean-Marie Vianney Yamiogo.
En appui aux différents efforts remarquables du gouvernement ivoirien, l'OMS a le plaisir de remettre aujourd'hui au ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, un lot de matériel et d'équipements destinés aux services décentralisés.
Le ministre de la Santé exprime son immense joie de recevoir ce matériel de qualité, Pierre Demba.
Je voudrais manifester ma joie de recevoir, en ma qualité de ministre en charge de la Santé, ce don important. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude et la gratitude de notre pays à l'OMS, tout en rassurant que je mettrai un point d'honneur quant au suivi de leur bonne utilisation pour améliorer les performances de notre système de santé.
Sur la répartition du matériel reçu, le ministre Pierre Demba.
Ce don va contribuer à renforcer la digitalisation des données de vaccination contre la COVID et du PEV de routine, y compris la surveillance des autres maladies. De renforcer les capacités et les ressources humaines en santé avec la formation de 3500 agents de santé, d'opérationnaliser les régions et districts sanitaires, d'améliorer la fonctionnalité des centres d'opérations d'urgence de santé publique, de transporter de manière sécurisée les échantillons de l'Institut Pasteur en Côte d'Ivoire, de développer la santé communautaire avec la formation de 1400 agents de santé communautaire, y compris la prévention communautaire, et enfin la mise à disposition de matériel et équipement aux normes.
D'une valeur de plus de 300 millions de francs CFA, le deuxième lot de matériel sera remis par l'OMS très prochainement au ministère de la Santé.
En page internationale, au moins 17 personnes sont mortes dans un accident ce jeudi entre un bus et un camion dans la région d'Assiout, dans le centre de l'Égypte, a rapporté le ministère de la Santé. 29 autres passagers ont été blessés, a ajouté le ministère. Le gouverneur a aussitôt décrété l'interdiction de la circulation des poids lourds sur la route d'Akla Al-Kalka, Assiout, de 20h à 7h, selon le quotidien d'État Al-Aram. Oui, cette décision a été prise en raison des nombreux accidents de la route survenus à cause de l'imprudence des conducteurs de poids lourds, poursuit Al-Aram. Et puis, un tribunal a ordonné ce jeudi la remise en liberté sous caution de l'influent pasteur Ezekiel Odero, arrêté la semaine dernière dans le cadre de l'enquête sur la mort de 109 personnes dans une forêt du sud-est du Kenya. Les enquêteurs soupçonnent que certains adeptes de son église de la Vie Nouvelle figurent parmi les victimes du massacre de la forêt de Chakaola, une affaire qui s'écoule depuis plusieurs semaines. Ce pays religieux d'Afrique de l'Est. Il a été libéré contre une caution de 1,5 million de shillings kenyans, soit 10 000 euros environ, on va dire 6 500 000 francs CFA, avec obligation de se présenter à la police une fois par semaine et interdiction de s'exprimer sur l'affaire. Fin de ce 18h, les grandes lignes. On retient pour l'essentiel que pour les élections en Côte d'Ivoire, un code de bonne conduite a été signé ce jeudi à l'initiative de la concertation impartie pour des élections démocratiques en partenariat avec la CEI et le NDI. Fait majeur, les partis significatifs du paysage politique étaient absents. La semaine de sécurité routière pour le mois de mai a été lancée hier à San Pedro et Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra, nous en a fait le point. Et puis hors de nos frontières, vous venez de l'entendre, on en a dénombré au moins 17 morts dans un accident ce jeudi entre un bus et un camion dans la région d'Assiout, dans le centre de l'Égypte. Merci de nous avoir suivis. L'info sera de retour demain 07h sur Radio de la Paix. Je vous laisse à présent avec le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Boulou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Une personne sur quatre dans le monde